effectivement, on peut se demander pourquoi c'est ce qu'on appelle l'écuménisme en arrière ou l'écuménisme historique. On essaie de retrouver des sources communes. Je crois que c'est important de se replonger ensemble dans une tradition qui était commune au temps de l'Église indivise, au premier millénaire, donc avant le schisme entre orthodoxe et catholique, entre grec et latin. Donc essayer de bien d'analyser, de mieux connaître et surtout d'avoir une lecture commune de cette histoire de l'Église indivise à une époque où nous vivions encore en communion.
Quel regard vous portez sur l'évolution de cet écuménisme avec les orthodoxes depuis ces deux, trois dernières années? Quel regard portez-vous sur l'avancée de ce dialogue?
Eh bien, si on regarde depuis le début du dialogue officiel, donc depuis 1979, on est plutôt dans une phase très positive, puisque le dialogue, il faut se le rappeler, avait été pratiquement interrompu entre 1993 et 2006, donc entre le moment où on a adopté la déclaration de Balaman sur la question des églises gréco-catholiques et la question du uniatisme, et 2006, donc la première rencontre donc de ce nouveau cycle de discussions, première rencontre qui s'est passée à Belgrade, il n'y avait quasiment pas eu de réunion, à l'exception de celle de Baltimore aux États-Unis, qui s'était d'ailleurs pas très bien passée. Donc on est plutôt dans une phase positive. La commission se réunit presque tous les ans. Donc en 2006, à Belgrade, avec le document dit de Ravenne qui a été adopté en 2007, donc sur les relations entre primauté et conciliarité. C'était un document plutôt théorique. Et après avoir adopté ce document théorique, donc les membres de la commission mixte ont jugé bon de se pencher sur ce qui est la principale pierre d'achoppement entre catholiques et orthodoxes, c'est-à-dire la question du pape ou la question de l'évêque de Rome et du rôle de l'évêque de Rome dans la communion de l'Église. Et le comité de coordination de la commission a rédigé un projet en 2008 en Crète. C'est ce document dit de Crète qui a été analysé l'année dernière à Chypre en 2009 et qui a été à nouveau étudié cette année à Vienne. Donc évidemment, on est maintenant vraiment au cœur des difficultés, si l'on veut, entre catholiques et orthodoxes. Donc il ne faut pas s'étonner que ce soit un processus assez long.
Je voulais savoir en quoi ce premier millénaire, donc, qui était le thème des travaux, peut-il être un modèle de communion dans la diversité, pour reprendre les mots du cardinal Schönborn à Vienne?
Alors je ne sais pas si c'est tout à fait un modèle, parce que quand même il y avait des tensions, même à cette époque. On idéalise bien souvent cette époque de l'Église indivise, avec ce qu'on appelle souvent la pentarchie, donc l'époque des cinq patriarcats. Ce n'est pas vraiment un modèle, mais ça peut être une source d'inspiration pour repenser ensemble, comme le disait le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Utunum Sint, repenser ensemble le ministère d'unité de l'évêque de Rome. Jean-Paul II appelait à une réflexion commune, catholique et orthodoxe, autour du rôle de l'évêque de Rome pour repenser la primauté que pourrait exercer le pape. Une primauté, non pas forcément vécue comme une autorité, une juridiction, mais comme un service d'unité. Et donc, effectivement, ce premier millénaire est très important. Il faut, et c'est le travail de la commission actuellement, repenser les notions telles que qu'est-ce que ça veut dire que le siège de Rome, premier siège? C'est une première question qui s'est posée. Et tout le premier paragraphe du document, d'ailleurs, est consacré à cette question. Qu'est-ce que cela veut dire que l'évêque de Rome est le successeur de Pierre? Quel était le rôle de l'évêque de Rome lorsqu'il y avait des conflits, soit des conflits théologiques, soit des conflits juridictionnels? Est-ce qu'il avait un pouvoir juridictionnel en une sorte de cour de cassation? Toutes ces questions sont en train d'être analysées, mais évidemment c'est un travail de longue haleine. Et les orthodoxes ont déjà émis des réserves, mais c'est pas étonnant, car nous avons de part et d'autre à repenser finalement nos traditions. Comme le disait le cardinal Casper, nous les catholiques, nous avons peut-être à repenser la primauté dans la conciliarité, et les orthodoxes, à penser la conciliarité davantage dans la primauté.
Qu'est-ce que vous retenez de cette nouvelle réunion de Vienne et qu'est-ce qu'elle nous enseigne pour l'avenir?
Eh bien, je dirais qu'elle est vraiment de bon augure, mais elle nous montre aussi que le dialogue, c'est vraiment un travail de longue haleine et qu'il faut, non seulement il faut du temps, mais il faut aussi, parallèlement au dialogue théologique, qui est donc l'objet de ces réunions de la commission mixte, il faut continuer le dialogue de la charité, les échanges, les contacts personnels, les voyages sont aussi très importants, aussi les contacts entre les primats. Et il faut également préparer l'opinion publique, l'opinion des fidèles, des croyants, c'est aussi très très important. Tout cela doit aller de pair.